إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue, Inch'Allah ou Ta'ala, les cours qu'on a déjà commencé. Et donc aujourd'hui, ce sera le troisième cours, et qui concerne, bien entendu, le sujet de mon voix, Minhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, c'est-à-dire donc la voix des envoyés en ce qui concerne le prêche ou l'appel à Allah Azza wa Jal. Da'wa, le prêche. Les deux cours précédents, on a insisté sur le premier point de ce qui concernait ce minhaj. Pourquoi on a insisté dessus? Parce qu'on avait dit que le premier point que les envoyés ils avaient concrétisé, effectué, c'était de commencer par ce qu'il y avait de plus important. Et on avait dit, bien entendu, la croyance. Et comme, bien entendu, c'est-à-dire que le sujet du séminaire, c'est la croyance, donc il allait de soi qu'on allait insister sur ce qui était propre à la croyance, qui rentrait, bien entendu, sur ce sujet. Et bien entendu, pour ce qui est de la croyance, on a traité une partie infime. On sait que c'est bien plus large. Il y a beaucoup de points à voir, comment les envoyés ont traité tous ces points de croyance. À la kulli hal, on reste ici pour ce qui est donc de ce premier point qui était le commencement des envoyés parce qu'il est le plus important, et en l'occurrence donc al-aqida, c'est-à-dire donc la croyance, concrétisation du tawhid, tahqiq al-tawhid. Simplement pour terminer le sujet d'hier, on avait parlé de ce qui était en relation avec Al-Qubur, c'est-à-dire les tombes, parce qu'on sait que beaucoup de musulmans de nos jours, Riyadun Billah, et Asaf Shadid, beaucoup d'entre les musulmans se sont égarés et ils ont fait des actes de politisme en ce qui concernait Al-Qubur, c'est-à-dire donc les tombes. Et on avait donc parlé, on avait développé sur ce sujet. Simplement un point qui reste à définir pour compléter le sujet, c'est que Ziyarat al-Qubur, c'est-à-dire donc la visite des tombes, elle est de trois catégories. La première catégorie, Ziyarat al-Mashru'a. La deuxième catégorie, Ziyarat al-Bida'iyya. La troisième catégorie, Ziyarat al-Shirkiyya. Donc trois catégories. Pour ce qui est de la première catégorie, Ziyarat al-Mashru'a. Donc c'est la visite qui est elle légiférée dans la religion de l'islam, qui repose donc sur des textes, et ici plus précisément sur les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle consiste en quoi cette ziyarat al-mashru'a? Comme on l'avait vu hier, en rappelant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est comme tout, na'itukum an ziyarat al-qubur, fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhira, ou tuzakkir al-mut, on a fait barre de riwayat. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir interdit que l'on visite les tombes, il a permis cela. On avait vu que que l'interdiction ne concernait qui ? Concernait les hommes. On a étudié cette question, on a développé, on a apporté toutes les preuves par rapport à cela. Cette interdiction concernait donc les hommes et les femmes. Cette interdiction concernait les hommes et les femmes. Et qu'ensuite, l'autorisation, c'est l'autorisation. Al-Ibaha ensuite. L'autorisation, ça concernait qui ? Les hommes, et l'autorisation, ça concernait uniquement les hommes. Et l'interdiction, elle est restée pour qui ? Pour les femmes. Et donc ça, c'est la visite qui est permise. C'est-à-dire que la personne, elle va visiter les hommes afin de se rappeler la mort. Et afin de se rappeler l'au-delà. Et ça, c'est un grand dhikr pour lui. Lorsqu'elle voit les gens qui sont autour de lui, qui sont déjà dans leur tombe, et qu'ils subissent déjà soit des châtiments, ou alors des délices, car ils sont fui al-hayat al-barzakhiyya, al-hayat al-barzakhiyya ma bayna al-dunya wal-akhira, c'est-à-dire cette vie qui se trouve entre la dunya et qui se trouve entre l'akhira. Et bien entendu, les gens de la sunna du consensus, d'après les textes du Coran et de la sunna, ils attestent que la personne, elle sera également châtiée, ou elle aura un délice dans sa tombe, contrairement aux Mu'tazila, qui eux l'ont avec Mujarad al-Aql, c'est-à-dire de par leur raison, ils ont réfuté cette croyance-là, malgré tous les textes. Et on avait développé ce sujet, qui est Masalat al-Qabr, et tout ce qui s'y passe, lorsqu'on avait enseigné le livre A'lam Sunnati al-Manshura. À la kulli hal, ça c'est la première. Également, ce qui est permis, c'est de dire des du'as, c'est-à-dire de n'invoquer Allah pour le mayyit, c'est-à-dire d'invoquer Allah Azzawajal pour le mort. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une du'a qui est connue, salam alaykum, ya ahl al-diyar, min al-mu'minin wa al-muslimin, ila akhiri. Et la vocation générale, n'invoquer donc pour les morts, rahma, etc. Uniquement, c'est ce qui est permis pour ce qui concerne ziyarat al-mashru'a. La deuxième catégorie, c'est ziyarat al-bid'iyya, c'est-à-dire la visite qui va être considérée comme innovatrice au niveau de la religion. Innovatrice pourquoi ? Parce qu'il y a des gens parmi les musulmans qui ont eu une croyance et qui se sont dit que lorsque l'on va auprès des tombes et qu'on fait des invocations auprès des tombes, ou alors qu'on prie auprès des tombes, bien entendu, il n'y a pas d'acte chez eux de polythéisme. Simplement, ils ont la croyance que dans cette partie, c'est-à-dire le maqbara, c'est-à-dire le cimetière, ni auprès des tombes, Allah Azzawajal yastajib, c'est-à-dire qu'il va répondre à l'appel, comme si c'était, bien, il y avait le baraka, comme s'il y avait donc une bénédiction, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit. Que ce soit pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors que ce soit pour la tombe d'autrui. Dans tous les cas, c'est interdit d'invoquer auprès de la tombe. Parce que cela, c'est une innovation. Et que jamais personne parmi nos sahaba n'ont fait, ni même les salafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas fait. Ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement ziyara, c'est-à-dire donc la visite de la tombe, et ensuite donc doua. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a visité la tombe de sa mère. Il a visité la tombe de sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la sunna al-nabawiyya, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, et que les sahaba qui étaient avec lui, ils ont pleuré également. À la kulli hal, ça c'est al-ziyara al-bid'iyya, le fait d'aller dans le cimetière, et d'invoquer Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'ils n'invoquent pas le mort, mais ils invoquent Allah Azzawajal, les invocations qui sont déjà avec Allah Azzawajal, ou alors même ils prient, ils font des actes d'adoration, simplement avec la croyance qu'il y a le baraka, ou alors que c'est quelque chose qui est avantageux de faire à ce endroit. Hadi bid'a, ziyaratu bid'a. Ensuite, la dernière, c'est ziyaratu shirkiya. Là, on rentre maintenant dans le shirk, c'est-à-dire dans l'associationnisme. Et c'est ceux, bien entendu, qui vont auprès des tombes et qui invoquent le mort. Qu'ils le prennent donc comme un intermédiaire. Et c'est ce qu'ils appellent donc l'awliya, c'est-à-dire les proches d'Allah Azzawajal. Donc ils vont vers les tombes des proches, salihin, l'awliya, ceux qui étaient pieux dans leur vie, et ils font des actes d'associationnisme, qui en réalité va se transformer par une adoration. Ils vont par exemple égorger auprès de cette tombe-là, ou alors ils vont invoquer le mort directement, et ce qu'ils vont faire, cet acte-là, n'a aucune différence avec Ubbad al-Asnam, ceux qui invoquent en réalité les idoles. Allah Azzawajal, il dit à propos d'eux dans le Coran, c'est-à-dire leur choubwa, c'est-à-dire leur ambiguïté, qu'ils citent lorsque l'on fait la remarque, lorsqu'on appelle à délaisser cette adoration, les statues écoutes, dit ma na'boudou milla liyukarribouna ilallahi zulfa, c'est-à-dire nous les adorons uniquement que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah azzawajal, c'est-à-dire par degré, qu'ils nous rapprochent d'Allah azzawajal uniquement. Et là, c'est la même chose qu'ils font. Ils vont envers ces tombes, ils égorgent auprès de cette personne qui est enterrée, ça a l'air, qui ne peut absolument rien faire pour eux. Et donc, dans la croyance que ce seront donc choufara, ce sont des intermédiaires, qu'Allah azzawajal va répondre à leur invocation de par cela. Taïf, pour les trois catégories de la visite. Ziyaratu, mashru'a, wa bid'aïa, wa shirkiya. Ensuite, une dernière question que l'on cite lorsqu'on a parlé donc de la prière. Là où il se trouve une tombe, comme par exemple construire des mosquées sur des tombes, alors qu'ils ont construit des mosquées en direction des tombes, on l'a expliqué, on l'a détaillé cela derrière la dernière fois. Il faut savoir donc que celui qui va prier et qui le fait donc avec la niya qasd al-qabr, cette personne-là, bien entendu, sa prière n'est pas acceptée. Car le nahi yaqtadi al-fasad, c'est-à-dire donc l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier à ces endroits-là et de prendre donc ces endroits-là, al-qubur, comme masjid, comme lieu de prière. Ce nahi yaqtadi al-fasad, c'est-à-dire que ça va impliquer quoi? L'annulation de la prière. Donc la personne qui va faire cela, sa prière elle est nulle, elle est non valable. Wa ikhtilaf al-ulama, divergent des savants, si par exemple une personne elle a prié dans une mosquée et qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait une qabr, ou alors qu'elle l'a su au dernier moment qu'elle a prié sans qu'elle ait l'intention donc de prier à l'endroit parce qu'il y avait une qabr. Donc il y a un ikhtilaf al-ulama sur ça, et parmi les savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, il voit que sa prière à lui elle est acceptée. Ala kulli hal, hadha li fa'ida. Ensuite, pour ce qui est donc de l'autre point, ou du deuxième point qui concerne une ajl, l'anbiya fi da'wati lillah azza wa jal, c'est al-ilm. Al-ilm, c'est-à-dire donc la science. Et on sait que les envoyés, ils ont commencé leur da'wa, leur prêche, donc une fois qu'ils ont eu science de ce qu'il fallait qu'ils fassent, qu'ils ont eu science d'Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à propos de notre prophète, وَأَنْزَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal il a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Al-hikmah ici, les savants disent حِنَمَا تَكُونَ الْحِكْمَةِ مَقْرُونَ بِالْكِتَابِ فَهِيَ السُنَّةِ, c'est-à-dire lorsque on trouve dans le Coran le terme hikmah et qu'il est relié avec le kitab, c'est-à-dire le livre d'Allah azza wa jal, al-hikmah ça veut dire quoi, la sunnah? C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal il lui a appris le Coran et lui a appris également la sunnah, c'est-à-dire qu'il lui a appris ce qu'il devait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes et dans ses paroles qui constituent bien entendu la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, c'est-à-dire il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc au départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de science sur ce quoi il allait exactement prêcher, par quoi il devait commencer, etc. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné la science. Donc ici c'est le minhaj, c'était pareil pour tous les envoyés. Et donc il en est à partir de là de même pour toute personne qui doit suivre ce minhaj, qui doit suivre donc minhaj al-anbiya fi da'wati lillah. Il doit commencer d'abord par apprendre. Avant de faire la da'wa, il doit commencer à apprendre. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset qui est encore de plus clair: قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ. Ici, il dit de dire à son envoyé, قُلْ هَذِي سَبِيلِ, c'est-à-dire, ceci est ma voie. هَذِي سَبِيلِ, la voie. السَبِيلِ qui est طريق, qui est également minhaj. قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ, c'est-à-dire, j'invoque, ou alors, j'appelle Allah Azza wa Jal عَلَى بَصِيرَةٍ. Qu'est-ce que veut dire ce terme, بَصِيرَةٍ, عَلَى بَصِيرَةٍ. Donc les savants, lorsqu'on revient au tafsir al-ilm, on voit qu'il y a plusieurs interprétations. Ceux qui vont nous dire al-yaqin ou al-haq, c'est-à-dire invoque suivant la certitude et la vérité al-haq. Également ceux qui disent al-ma'rifatin wa al-tahqiq, c'est-à-dire invoque donc suivant la connaissance. Et ceux qui disent également Al-Hujjatu al-Wadiha, c'est-à-dire l'argument et la preuve qui va être claire. Ça, ça constitue Al-Basira. Donc Al-Ma'rifa, Al-Tahqiq, Al-Hujja, Al-Yaqin, Al-Burhan al-Shar'i, Al-Aqli, Kadarik. Et c'est pour ça que Cheikh Sulayman ibn Abdillah, celui qui a expliqué le livre de Kitab al-Tuhim, de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, Rahmatullah al-Jamir, le Kitab ibn Sira al-Aziz al-Hamid, il dit Wajhu dhalik. Un ittiba'u sallallahu alayhi wa sallam wajib, c'est-à-dire le fait de suivre le prophète sallam, c'est obligatoire pour tout le monde. Et les versets du Coran, ils sont plus que clairs sur cela, et la sunna également. وَلَيْسَ اِتِّبَاعُهُ حَقًا إِلَّا أَهْلُ الْبَصِيرَةِ, c'est-à-dire que réellement son suivi, il ne se fait de manière véritable et concrètement que par les gens qui ont la al-basira, qui ont donc la science, qui ont donc al-ma'rifa, qui ont donc la connaissance. Et ensuite il dit فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْبَصِيرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ. Donc il nous dit que ceux qui ne vont pas avoir la science en ce qu'ils prêchent et qui ne vont pas suivre les envoyés dans cela, alors ce ne sont pas des gens qui sont considérés comme atba' ou comme ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il nous dit que cela c'est une obligation. فَتَعَيَّنَا أَنَّ الْبَصِيرَ مِنَ الْفَرَائِضِ, que la science donc c'est une obligation. Et encore plus pour celui qui va donc suivre, qui veut suivre les envoyés et qui va donc commencer par le prêche, qui va donc faire الدعوة إلى الله عز وجل. إنني من القيم رحمه الله تعالى أعلى درجة العلم c'est-à-dire le plus haut niveau de la science il dit البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de la science البصيرة. Bien entendu البصيرة il y a des étapes parce qu'il y a de la science pour ça, parce que la personne va apprendre. Il nous dit que le terme lui-même البصيرة ça va être considéré comme le plus haut niveau de la science. A'la darajat. Et il va nous dire, Ahimullah, que ceci va devenir en réalité comme la chose que l'on voit. La chose que l'on voit, c'est quelque chose qu'on n'a aucun doute sur elle. Et on a réellement science de ce qu'on peut voir. De même pour ce qui est des sciences par rapport au cœur. Et il nous dit, وَهَذِي الْخِصِّيصَ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا الصَّحَابَ عَنْ سَيْرِ الْأُمَّةِ c'est-à-dire c'est cette particularité, c'est cette spécificité qu'ont eu les Sahaba sur le reste de la communauté. Car ils ont eu cette basira, ils ont eu donc cette science, ils ont pris la science directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont appliquée. Tous les hadiths qui nous sont venus, ceux qui sont venus de qui? Ils sont venus des Sahaba. Le Coran lui-même, il est venu de qui? Il est venu des Sahaba, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc la science, elle est venue d'eux. C'est eux qui avaient le basira. Ils se sont donc différenciés des autres personnes de cette communauté de par cette basira, de par donc cette science. Et il nous dit que c'est le plus haut niveau des savants. Et donc, tashmal al-basira al-ilm bi-shar, c'est-à-dire la science de la législation. Et également, l'ilm bi-hal al-mad'u, c'est-à-dire, elle concerne également la connaissance de la personne à qui on va faire la da'wa. Quelle est donc cette personne-là? Parce que ça fait partie des gens du livre. Ce qui fait partie des chrétiens, des juifs, ce qui fait partie des athées, ce qui fait partie des communistes, etc. Yani, pour savoir yani, par contre, de quelle manière on va s'y prendre avec lui, et quels sont les hujjats qui vont être les plus efficaces lorsqu'on va l'appeler Allah Azzawajal, et suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, al-ilm bis-sabil al-mursil ilayhi ila al-maqsoud, et al-hikma, c'est-à-dire également la connaissance de cette voie que l'on va emprunter à ce moment-là pour arriver à convaincre ces gens avec qui on va, à qui on va appeler. Et c'est bien entendu ici la hikmah, c'est également ici la sagesse. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui avait dit « Inna ka ta'ti qawman min ahli kitab, fal takun awwala ma tad'u ilayhim shahadatu an la ilaha illallah » ou fi ba'd al-riwayat, ibadatullah. C'est-à-dire que la première chose avec laquelle tu vas commencer, et ici, Shahid, yani, le témoin argumentatif ici, c'est Inna ta'ti qawman min ahli al-kitab. Donc, il va déjà lui enseigner quelle va être leur particularité, les gens du livre. Donc, eux, ils ont une croyance. Ils ont une croyance. On sait comment on va commencer avec eux. Et ensuite, il a bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, une preuve qu'on commence, bien entendu, tout le temps par la croyance. Parce qu'il lui a dit ensuite, la première chose avec laquelle tu dois commencer, c'est quoi? Ibadatullah. C'est-à-dire, l'adoration d'Allah Azzawajal, qui est Tawhid al-Uluwiyya. Et donc cette séance-là, on sait qu'Allah Azzawajal, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander encore plus de science tout le temps. C'est pour ça que dans ce verset du Coran, Allah Azzawajal yaqul wa la ta'jal bil Qur'ani wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu. Ne te précipite pas pour ce qui est de la récitation du Coran jusqu'à ce qu'on finisse de te donner la révélation, qu'on termine donc la révélation qu'on est en train de te donner. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما et donc dit oh mon Seigneur augmente-moi de science وقل ربي زدني علما donc on voit que même dans cette dua avec la science qu'il avait le prophète صلى الله عليه وسلم Allah lui demande أن يدعو il mazid qui lui demande donc une augmentation زيادة pour ce qui est de la science et il nous dit Ibn Hajar al-Asqalani رحمه الله المراد بالعلم وكسيس العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر ونهي نعم من أمر دينه في عبادته ومعاملته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره والتنزيه عن النقائص donc il nous dit ici Ibn Hajar que ce qui est voulu par العلم c'est la science donc religieuse celle que dont sa connaissance est obligatoire pour toute personne qui va être donc chargée ou qui va être considérée comme aux yeux de la religion comme responsable le mukallaf pour ce qui concerne donc amr din c'est-à-dire tout ce qui concerne la religion et il nous dit à titre d'exemple al-ibada ou al-mu'amala tout ce qui rentre dans l'adoration tout ce qui rentre dans le relationnel et également al-ilmu billah wa sifati c'est-à-dire donc la science d'Allah azza wa jalla la science d'Allah azza wa jalla c'est-à-dire comment Allah azza wa jalla il est qui Allah subhanahu wa ta'ala et wa sifati c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que wa ma yajibu lahu min qiyam bi amri wa tanzih an an-naqais et tout donc les droits qui lui reviennent à Allah azza wa jalla et tout ce que l'on doit donc lui écarter comme imperfection pour ce qui est de notre croyance hada wa al-'ilm également ce qui va rentrer parmi les points qui vont entrer dans ce minage, c'est bien entendu l'ikhlas. C'est donc la pure intention, l'intention qui va être pure, l'ikhlas. Et lorsqu'on dit l'ikhlas, c'est-à-dire qu'il invoque ou alors qu'il appelle uniquement Allah Azza wa Jalla. Il ne veut rien d'autre par rapport à cela. Il appelle uniquement pour Allah Azza wa Jalla. Iwajillah Azza wa Jalla. Donc il ne va pas appeler pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ou alors il ne va pas appeler pour par exemple un hizb. Il ne va pas appeler donc pour un parti ou pour autre chose. Il va appeler uniquement pour Allah. C'est ce qu'on fait donc tous les envoyés. Et ici donc, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va citer. Et qui est hadith Jabir, radiallahu ta'ala anhu, hadith muttafaqun alayh. Yaqul, qazawna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقد خاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا c'est-à-dire que nous avons donc fait une guerre une غزوة avec le prophète sallallahu alayhi وقد خاب يعني خاب معنا اجتمع et qu'il y a eu beaucoup des gens parmi les muhajirin parmi les immigrés qui se sont réunis jusqu'à qu'ils ont été nombreux وكان من المهاجرين رجل لعاب il y avait parmi les muhajirin une personne La'ab, certains savants l'ont expliqué comme une personne qui yal'ab bil-hirab, c'est-à-dire une personne qui, comme faisait le habasha, c'est-à-dire qu'il avait une distraction avec ce qu'on appelle la lance. Et qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Comme a fait le hadith, فَكَسَعَ أَنْصَرِيًا فَرَدُ بِالْأَنْصَرِي رَضَوًا شَدِيدًا C'est-à-dire ce qu'il a fait, il a donné une frappe, c'est-à-dire فَكَسَعَ بِالْعَيْنِ فَكَسَعَ يعني ضَرَبَوْ عَلَى الدُّبُورِ Il l'a frappé donc sur son postérieur. Et il s'est énervé. Al-Ansari, il s'est énervé. Il s'est mis très en colère. Yani, il n'a pas apprécié cela, cet acte-là. Hatta tada'u wa qala al-Ansari, yali al-Ansari wa qala al-Muhajir, yali al-Muhajiri. C'est-à-dire chacun il va appeler Qabilatu. C'est-à-dire, il a mal intensibilité. Pour ce qui est de l'Ansar, pour ce qui est de l'Muhajir. Donc il a dit, yali الأنصار إلى آخر الذي المهاجر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عليه الصلاة والسلام إلى ذي فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية. C'est-à-dire quel est donc cet appel des gens de la Jahiliya. ثم قال ما شأنهم. Il a donc demandé à ce moment-là quel est leur problème. فأخبر بكسعة المهاجري من أنصاري. Et à ce moment-là, donc on va lui informer de ce qui s'est passé le prophète sur salam et l'attaque qu'il y a eu donc, et d'où quelle a été en réalité la source du problème. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. دعوها فإنها خبيثة. دعوها إيش؟ الدعوة. هذه الدعوة. C'est-à-dire لا تتقلى فإنها خبيثة. C'est-à-dire qu'elle est pourrie. Elle est mauvaise. فإنها خبيثة. Ici, regardez comment ils vont expliquer les savants ce hadith. Qu'est-ce qu'ils vont dire à partir de là? Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, on va bien comprendre ce qu'on a voulu à partir de ce hadith. On a bien compris l'histoire. On va voir al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse qu'on va en tirer, et la science qu'on va en tirer de ce hadith, et qui nous concerne ici directement, lorsqu'on parle de ad-da'wa ilallah, et uniquement ilallah azawajal. La ilahiz, ou la shaytan. Il dit, Cheikh Al-Islam, avec tout le kalam du majmu' al-fatawa. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن. Tout ce qui sort donc du prêche concernant l'islam et concernant le Coran. من نسب. Que ce soit donc une affiliation. أو بلد. Ou que ce soit un pays. أو جنس. Ou que ce soit donc une nationalité ou autre. أو مذهب. Ou alors que ce soit un مذهب, une école de jurisprudence. أو طريقة. Ou alors que ce soit une voie. فهو من عزاء الجاهلية. Ça fait partie donc tout cela réellement de ce qui est en relation avec la Jahiliya, qui est propre à la Jahiliya, c'est-à-dire à l'ignorance. Et regardez ce qu'il va dire. فَعَذَنَ الْإِسْمَنِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ إِسْمَنْ شَرْعِيًا. À la base, le terme ansar et le terme muhajir, ce sont deux termes qui sont quoi? Qui sont légiférés. شَرْعِيًا. Et pourquoi cela? Parce qu'on le retrouve dans le Coran. الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ. Et il va nous dire, جَاءَ بِهِمَا الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ وَسَمَّاهُمَا اللَّهُ بِهِمَا كَمَا سَمَّانَا الْمُسْلِمِينَ comme nous appelons les musulmans من قبل يعني يا مصر وانتساب الرجل إلى المهاجر أو الأنصار حسن محمود عند الله وعند رسوله. C'est-à-dire bien au contraire, la personne qui va se dire des ansars, qui va se dire des muhajir, c'est quelque chose qui est louable auprès d'Allah et son prophète, avec ce qu'on fait les ansars, avec ce qu'on fait les muhajirin pour l'islam. Et il nous dit ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط الانتساب. C'est-à-dire, c'est pas non seulement uniquement lorsqu'on a dit ansar ou lorsqu'on a dit muhajir, c'est pas uniquement l'affiliation, c'est-à-dire le ta'rif, afin qu'on se différencie des autres, qu'on sache que cette personne-là, comme ashab al-qabila, lorsqu'on dit que cette personne-là ansari, c'est une personne qui est ansari, ou cette personne-là, elle est de telle qabila, etc. Voilà, mubah, lorsqu'on dit une personne elle est de telle qabila, ala ahfani, etc. C'est quelque chose qui est mubah en islam. تنتسب إلى قبيلتك. طيب نجيب فكم ببارتي دسا ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من المكروه المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة ومعصية أخرى ثم ensuite il va dire et ce n'est même pas non plus ce qui est strictement interdit et qui peut donc amener et conduire, c'est une appellation qui va amener et conduire à quoi? À l'innovation dans la religion. Et ensuite il va dire فلما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوه الجاهليه. À ce moment-là, ce terme ansar, ansar ou muhajir, lorsque ils les ont appelés dans cette situation, les deux par ce nom-là, le prophète صلى الله عليه وسلم انكر عليهم, c'est-à-dire donc il a réprimandé. Et il a dit, هذه دعوه, دعوه الجاهليه. C'est donc un prêche qui est quoi? Qui est propre à la jahiliya. Donc regardez à la base, deux termes qui sont employés, et qui sont shari, et qui sont même mahmoud, qui sont donc loi, le prophète sallam, lorsqu'il a eu ce qasd-là, ils ont appelé eux à ce moment-là, à leur mimbab al-unsuriya, ils ont appelé donc à leur qabila, à ce moment-là c'est devenu une da'wat al-jahiliya. Et on a oublié qu'est-ce que c'était réellement al-ansar ou al-muhajir à ce moment-là, car c'est sorti complètement du contexte. Donc regardez, et ça qu'est-ce qu'on va profiter par rapport à cela? C'est que on ne peut en aucun cas appeler donc un hizb. Et même si ce hizb-là, on le nomme par un terme qui va être un terme shari. comme par exemple les Ikhwan al-Muslimin, le groupe qui est connu qui s'appelle les Ikhwan al-Muslimin, ils sont dans les Ikhwan al-Muslimin, et Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant Allah Azzajal, nous a dit, il n'a même pas mis l'Ikhwan. L'Ikhwan al-Muslimin, non, les frères musulmans, on est tous des frères musulmans. Allah Azzajal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman pour le musulman. Mais qu'est-ce qui est voulu par ce terme-là? Quelle est la da'wah qui est derrière ça? Et à quoi on appelle? Est-ce qu'on appelle réellement Allah Azzajal ou est-ce qu'on appelle donc un hizb qui comprend donc des règles et qui va regrouper des gens afin donc de parvenir à des objectifs qui sont bien précis? Donc on voit que ici, si ça, ça se transforme, c'est-à-dire ces noms-là, même s'ils sont pris de la sunna ou alors du kitab, et si on veut, par ces noms-là, une da'wah qui va être non pour Allah Azzawajal, mais pour la peine un hizb moyen, c'est-à-dire un parti bien précis, alors ça devient quoi une da'wah qui dit jahiliya, comme il s'est passé avec l'ansar ou le muhajir. Et en vérité, on va nestakhrij. On en tirait donc de cette histoire la même chose. Pour ce qui se passe, on en fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on peut voir parmi les jama'at, etc. Donc ici, c'est al-ikhlas, c'est-à-dire qu'on a une pure intention et qu'on appelle uniquement Allah à dire rien d'autre. Pas un hizb ou autre. Et pour ce qui est également, pour compléter donc ce sujet, qui est un sujet qui est important, on va citer une parole du grand savant Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, Rahimahullah ta'ala, dans son livre Da'watu ila Allah wa akhlaq al-du'at. Une parole qui va être importante. Et comme on a dit, Al-Da'i, comme on l'avait dit donc le premier cours lorsqu'on avait fait l'introduction pour ce qui était de la science, c'est celui qui transmet. Donc on transmet ici les paroles de ce savant pour ce qui est de cette question. Il nous dit, Anna al-wajiba ala al-da'iyat al-islami, an yad'u ila al-islam kulli. C'est-à-dire ce qui est obligatoire pour le prêcheur musulman, c'est qu'il appelle à l'islam. À l'islam en entier. Et tout ce qu'elle comprend. Voilà une farbet bain al-nas. Il ne fait pas de division entre les gens. Et qui ne soit donc pas, qui ne suit pas inconditionnellement et aveuglement donc un madhab, qui est une école de pensée, comme par exemple al-madhab, al-madhab al-fiqhiyya, d'un madhab, sans un autre madhab. Ou les qabilas d'un qabila, ou alors qui suit donc une tribu sans une autre tribu. Ou les sheikhihi, ou raïsi, ou ghayri dhalik, c'est-à-dire alors qu'il suit donc son sheikh uniquement. De manière inconditionnelle, aveuglement, ou alors celui qui le dirige, etc. Il nous dit c'est-à-dire, il nous dit que ce qui est al-wajib, c'est qu'il donc, et son objectif, c'est qu'il atteste la vérité et qu'il la mette en évidence. Ça, c'est ça. C'est cela. Qu'il appelle Allah Azzawajal et tout ce qui donc fait partie de la vérité et qui est de la religion d'Allah Azzawajal avec ikhlas, il appelle. C'est-à-dire également qu'il veut par là donc la droiture des gens. Et même si cela donc va en contradiction avec l'habit d'une personne, d'un tel ou d'un autre. Et donc, lorsque il est né chez les gens, ceux qui ont suivi inconditionnellement, aveuglement, al-madaïf, c'est-à-dire donc les écoles. Les écoles de pensée. Il rentre également ici, bien entendu, l'Ahzab, tout ce qui va rentrer sous ce nom, al-Madaïf. Ou il dit, inna madhhab fulan awla min madhhab fulan. Ja'at al-furqatu wa l'ikhtilaf. Et donc, ils vont dire à ce moment-là que le madhhab de cette personne est meilleur que le madhhab de cette personne. Ici, ça peut être considéré, ça va être plus précisément comme madhhab al-fiqhi. Ja'at al-furqatu wa l'ikhtilaf. Et à ce moment-là, il est advenu quoi? Al-furqa, c'est-à-dire la division de schisme, wa l'ikhtilaf. Donc la dissension dans la communauté. حَتَّى أَلَى بِبَعْضِ النَّاسِ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى أَنْ لَا يُسَلِّيَ مَعَ مَنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِهِ. Jusqu'à ce que cela est venu, que la personne qui est un autre madhhab, il ne prie pas avec une personne qui a un madhhab différent de lui. Comme par exemple, il dit فَلَا يُسَلِّي الشَّافِعِي خَلْفَ الْحَنَفِي وَلَا الْحَنَفِي خَلْفَ الْمَالِكِ وَلَا خَلْفَ الْحَنْبَلِي. C'est-à-dire que le Shafi'i, il ne va pas prier avec celui qui dit Maliki. Ou le Maliki, il va prier avec celui qui est Hanbali, etc. Et comme on l'a vu auparavant, Durant le Hajj, à l'époque, il y avait quatre sections. Quatre sections. Et dans ces quatre sections, c'était chaque madhhab. C'est-à-dire que le madhhab al-Shafi'i priait tous ensemble. Ou le Hanafi, de même, etc. Et comme on peut voir aujourd'hui, dans les mosquées, lorsqu'on voit donc que certains, qui sont du madhhab al-Hanafi, ils prient ensemble. Ils ne se mélangent pas avec les autres, ils ont chacun leur mosquée. Ils sont même venus même à diviser la mosquée en deux. Subhanallah. Et il nous dit donc,
وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين. C'est-à-dire que cela est advenu de ceux qui sont considérés comme extrémistes et qui sont considérés donc comme étant des suiveurs de manière aveugle et inconditionnelle. Et ensuite il nous dit وَهَذَا مِنَ الْبَلَاءِ وَمِنِ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et ça fait partie donc de quoi? Ça fait partie des épreuves néfastes. Ça fait partie même du fait que l'on va suivre le chemin du diable, les pas du diable. قال أئمة أئمة الهدى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأشباههم كلهم أئمة الهدى ودعاة الحق. C'est-à-dire que tous ces gens, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i, Ahmed et tous ceux qu'il a cités, sont tous des imams. Tous des imams dans la religion. On n'a pas faire de différence à ce moment-là. Ce sont tous des gens qui ont, eux, appelé à la vérité. Qui ont appelé avec ikhlas et qui ont appelé donc à la vérité. Ils n'ont pas appelé à des ahzab, des groupes, mais ils ont appelé à la vérité. Da'ou nas ila dinillah. وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الْحَقِّ. Et donc ils les ont appelés à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils les ont donc dirigés sur la vérité. وَقَعَ هُنَاكْ مَسَائِلْ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire que وَقَعَ هُنَاكْ مَسَائِلْ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire qu'il y a eu des divergences entre eux, des questions qui concernaient le fiqh. اِخْتَلَفُ فِيهَا يَخَفَى الدَّلِيلَ عَلَى بَعْضِهِمْ فَهُمْ بَيْنَ مُجْتَهِدْ مُسْلِمٌ لَوْ أَجْرًا وَبَيْنَ مُجْتَهِدْ أَخْطَأَ الْحَقَّ فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم. Et donc, ces gens-là, ils ont eu des divergences, mais cela n'empêche pas, un petit exemple, il a donné un exemple, lorsque, par exemple, le dalil, il peut être donc dissimulé pour la personne, donc elle n'a pas eu le dalil, ou alors que, Wajal Istidlal, par exemple, l'aspect argumentatif n'est pas apparu pour cette personne-là, et donc elle a un avis qui est différent. Il y a beaucoup de asbab, puis d'irtilafat, ben al-ulama. Et donc, il nous dit, ces gens-là, ils vont être considérés. Ils vont être considérés comme soit un mouchtaïd qui a fait une phrase d'interprétation, parce qu'il avait le niveau, qu'il était un grand savant, et qu'il a atteint donc la vérité. Et le fait qu'il a atteint la vérité, il va avoir deux. Comme cela est venu dans le hadith du prophète, il va avoir donc deux. De quoi? De récompense. Alors que celui qui a fait l'ijtihad, il n'est pas parvenu à la vérité, il va avoir un simple ajr. Il aura quand même un ajr. Et il nous dit donc qu'on doit reconnaître leur niveau, on doit reconnaître donc leur rang dans leur religion. Et on doit donc invoquer pour eux un rahma. وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق لكل حال أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ لا هذا غلط. C'est-à-dire donc on ne doit pas différencier ou dire ce madhab est meilleur qu'un autre et qu'on doit le suivre donc aveuglément. عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلان أو فلان. وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم ولكن مع ذلك تحفظ لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك. C'est-à-dire donc à ce moment-là tu suis uniquement la vérité. C'est ça toi ta fonction, c'est que tu suives la vérité lorsque bien entendu il t'apparaît la preuve. Lorsque la preuve elle t'apparaît, à ce moment-là tu dois la suivre. Et c'est pour cela donc que tu dois prêter attention et tu es attentif pour ce qui est de ta religion. Et donc tu prends de la vérité tout en reconnaissant, même si cela a été contraire à la parole d'un grand savant, parmi les madaïbs ou autres, sans reconnaissant son cadre, cette personne-là. Et ensuite il dit وَتَخَافُ اللَّهُ وَتُرَاقِبُوا جَلَّ وَعَلَى مَعْ إِمَانِكِ لِأَنَّ الْحَقُ وَاحِدٌ وَأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرًا وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Donc il l'a dit déjà. Et il nous dit le shirk, le maqsoud ou l'hadaf, ikhraj an-nas min al-dhulumat ila an-nur. C'est-à-dire que le véritable objectif des du'at, qui était donc le ménage d'Anbiya, c'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Wa yarshadhum ila al-haqq hatta ya'khudhu bihi. C'est-à-dire, et donc, leur montrer la vérité jusqu'à qu'ils la prennent et les diriger, les guider vers cette vérité. Wa yanju min an-nar, et jusqu'à donc qu'ils se sauvent donc et qu'ils soient sauvés de ce. Du feu. On a dit min ghadab Allah, et ils sont donc protégés, ou alors ils sont donc sauvés de la colère d'Allah Azza wa Jal. Wa ikhraj al kafir min dhulumat al kufr, et donc faire sortir le mécréant des ténèbres de la mécréance. Il a nour al huda, jusqu'à donc qu'il vienne à la lumière, et al huda. Wa ikhraj al jahil min dhulumat al jahil, il a nour al ilm. Et donc, également faire sortir la personne qui va être dans l'ignorance et lui apporter la science et faire sortir la personne qui est dans le péché pour l'amener jusqu'à l'obéissance. Alors, on a dit, والله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور. ça c'est le maqsoud de la da'wa, c'est ce qu'on veut faire. Donc comment dire au départ à l'ikhlas, c'est qu'on veut uniquement wajhu Allah et qu'on suit et qu'on veut par rapport à cela la vérité, suivre donc al-haq, que ce soit donc à tous les niveaux. Et comme il a cité le verset, والله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور. فالرسل, donc regardez, les envoyés, donc tous les envoyés, ils ont été envoyés pour cela, pour les faire sortir les gens du Adhulumat, c'est-à-dire donc des ténèbres jusqu'à la lumière. Wadu'at al-haq, kadaïk yakhubun bidda'wati wa yunshitun alaha. De même donc pour ceux qui appellent à la vérité. Donc, ils font cette même da'wa. Ils font également cette même da'wa. Ils accomplissent cette même da'wa, la même qu'ont fait les prophètes. L'ikhraj al-nas min adhulumat ila an-nur. Il a akhir kalam shia rahimallahu ta'ala. Donc ça, c'était pour ce qui était du fait que l'on veut par cette da'wa uniquement au Dieu Allah Azzawajal et qu'on ne cherche pas par cela à appeler à un parti ou à appeler à une école bien particulière, etc. Également, une parenthèse qu'on va citer et qui est importante, c'est certaines choubouates, c'est-à-dire certaines ambiguïtés que les gens y ramènent pour ce qui est donc de commencer par Al-Aqida, et également pour ce qui est donc uniquement de suivre le minhaj des Rusul. Certains disent qu'on est à une époque qui diffère du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tellement il y a des divisions dans la communauté, si on appelle les gens au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité, et si on leur demande de s'écarter de l'innovation, automatiquement on va diviser les gens. On va diviser les gens encore plus. On va les diviser. On va faire donc dissension au sein de la communauté. Donc ce qu'il nous faut, c'est qu'on doit donc délaisser ces choses-là momentanément, afin donc de rassembler les gens. D'abord les rassembler, c'est-à-dire l'ijtima. Comme beaucoup de groupes, ils ont ce minage dès leur base, c'est-à-dire ils ont cette méthode. C'est de rassembler les gens et de ne pas dire des choses qui vont les faire diverger. Et donc on délaisse à partir de là le rappel de la croyance authentique. On va délaisser le rappel ou la mise en garde de l'innovation, etc. Ça c'est une première choubouha. Alors que, comme on l'a vu auparavant, tout ce qui vient donc du Qur'an et tout ce qui vient donc de la Sunna, c'est poursuivre la vérité, c'est poursuivre le haq. Et même si les gens, ils ne sont pas d'accord avec nous, même si cela crée un irtilaf, parce que ce qui nous est demandé à nous, c'est de suivre la vérité uniquement. C'est ce qu'on fait, tous les envoyés. Les envoyés eux-mêmes, lorsqu'ils ont appelé au haq, est-ce que tout le monde les a suivis? Est-ce qu'il n'est pas venu la division? Même la pire des divisions, une grande division. Donc il y avait eu la division. Bien entendu, c'est la division entre al-haq et al-batil. De même si au sein de la communauté, si maintenant on appelle au tawhid et les gens ne les acceptent pas, ils continuent dans leur shirkiyat, comme le fait d'adorer les tombeaux, est-ce qu'on délaisse donc cela pour les rassembler les gens, pour rassembler cette communauté? Avec al-batil, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement faux. Ce que l'on doit faire donc, c'est concrétiser ce minage et l'appliquer comme il se doit. Et c'est par là que viendra le nasr réellement. Et d'autres, bien entendu, qui disent que le fait que l'on parle également de la croyance et que l'on appelle les gens à cela, ça va nous prendre du temps. Alors que les ennemis, en dehors de l'islam, ils nous attaquent de toutes parts. Et donc, on doit s'occuper d'abord de repousser ces ennemis-là et ensuite, on doit faire de s'occuper après de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté et de régler nos différences. Et d'abord s'unir pour combattre ces ennemis. C'est quelque chose qui est astin yani khilaf al-waqi. C'est quelque chose qui est complètement faux par rapport à ce qu'on vit de nos jours. Car on sait que le véritable problème de cette communauté, c'est bel et bien la divergence et le schisme qu'il y a à l'intérieur de cette communauté et la dissension. S'il n'y avait pas cela, si véritablement les musulmans étaient unis sur le haq, sur la vérité, alors on serait fort devant l'ennemi. Et ce qui a fait réellement la faiblesse, c'est ça, c'est que les divergences qu'il y a eu dans la communauté, et ceux donc qui ont suivi le bid'a, l'innovation, qui ont suivi al-turuq al-munharifa, qui ont suivi les voies qui sont différentes de celles du prophète et qui sont déviées de la voie des prophètes, etc. Donc on va arrêter que le véritable mot c'est celui-là. Et ceux qui vont donc commencer par appliquer le minhaj al-anbiya, c'est ceux qui vont commencer donc par ramener les gens au tawhid, au sein de la communauté. Et c'est par cela que ça va commencer. Et c'est par là qu'Allah Azzawajal nous donnera réellement un nasr. C'est vraiment là qu'Allah Azzawajal va donc nous donner la victoire, et pas autrement. Et donc ça c'est également une choua et complètement nulle. Et en plus de ça, si on regarde bien, c'est le waqi'a, si on regarde bien tout ce qui s'est passé auparavant, du temps du colonialisme, etc., lorsque les pays musulmans ils ont envahi les pays musulmans, on voit que tout le temps ils se sont aidés justement des groupes innovateurs. S'il n'y avait pas eu ces groupes innovateurs, ça ne serait pas arrivé. Par exemple, lorsqu'on regarde en Inde, lorsque les Anglais ils ont envahi et colonisé l'Inde, ils sont appuyés sur les soufis, des sectes extrémistes chez les soufis, comme Al-Qadiani, qui a commencé par Ghulam Ahmed, qui était une personne qui commençait à prêcher Al-Dalal, et qui en a fini par dire qu'il était lui-même un prophète, etc. C'est des gens, ils ont été, ainsi que leurs sectes, ils ont été quoi? Financés par, justement, les mécréants. Ils ont été financés par les ennemis. Donc, ils ont trouvé cette fenêtre ouverte dans la communauté pour pouvoir rentrer. Voyez? Donc, on voit que, justement, il y a réellement problème, c'est le problème, c'est le réel problème, c'est la présence de l'innovation dans la communauté. Et s'il n'y avait pas eu cette innovation, les mécréants eux-mêmes, ils n'auraient pas trouvé de porte pour s'infiltrer dans la communauté musulmane et sur les terres d'islam. Ayyadun billah. Ensuite, pour finir le sujet, Inch'Allah, parmi ce qui fait partie du minhaj al-anbiya, illallah azza wa jal, c'est également as-sabr, c'est-à-dire donc la patience. Ça, c'est un point également qui est fondamental et que tous les prophètes ont appliqué dans leur vie. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا » C'est-à-dire que les envoyés, ils ont été avant toi, c'est-à-dire avant toi, مِن قَبْلِكَ, avant toi, Muhammad, ils ont été traités de menteurs. On a démenti leur da'wah. « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا » Ils ont donc fait preuve de patience par rapport à ce mensonge et par rapport à tout ce qu'ils ont pu rencontrer comme difficulté dans cette da'wah, c'est-à-dire lorsqu'ils ont appelé Allah Azza wa Jal. Hatta ta'awun nasruna, jusqu'à ce qu'il leur ait venu donc notre secours. Donc, ça a été ce qui est appliqué par tous les envoyés. Et celui donc qui veut faire la da'wah d'Allah Azza wa Jal, la Buddha min sabr. Également, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voir durant la vie de notre prophète sur Salem, comment lui également il a patienté. On sait que dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, et qui était ce hadith qui s'est passé donc, Yom Hunayn, le jour donc de Hunayn, Hunayn qui est un wadi qui se trouve entre Mecca et Taif. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sur Salem? Dans ce hadith, لما كان يوم حنين أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأحتى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأحتى عيينة بن حس مثل ذلك وأخناسا من أشرف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là? Il avait bien entendu le butin de guerre. Il a donné beaucoup de ce bien à des gens bien précis, voyez, et qui faisaient partie donc min al-ashraf, ashraf al-arab, qui faisaient partie donc de ceux qui avaient un haut rang parmi les Arabes. Mais pourquoi il a fait cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam bil-hikma, c'est-à-dire par la sagesse. Et il sait que si ces gens-là, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait pour l'islam. Il avait, ma kana yakhaf al-faqr, il n'avait pas peur de quoi? De la pauvreté. Il donnait, tant qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam. Yani pour Allah Azza wa Jalla. Il a donné à ces gens-là, car il savait qu'ils avaient donc une place qui était stratégique. Il savait que ces gens-là, en leur donnant, et en les rendant donc satisfaits, et en voyant que l'islam, et en que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il y a le nom d'Islam. Là, il y a Khar, c'est-à-dire qu'il n'était pas avare envers eux, pour donc conquérir leur cœur. Pour conquérir donc leur cœur. Taïf. Donc ça, c'était le but. Et le Prophète a fait uniquement cela dans ce but-là. Et c'était donc son minhaj. Et donc, une personne qui a vu ça, qui a vu donc, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été données à certaines personnes, il a dit, Wallahi, inna hadi qisma ma'oudi la fiya, wa ma'oudi la fiya wajullah. C'est-à-dire cette chrisma, ce partage, il n'y a pas eu d'équité. Elle n'a pas été faite par équité. Elle n'a pas été faite pour le visage d'Allah Azza wa Jalla. Et la personne qui a dit ça, ne l'a pas dit devant le prophète sallam. Il y avait une Mas'ud, il l'a entendu. Et donc, il était voir le prophète sallam, il l'a averti de ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam? Donc, فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولُ اللَّهِ sallam فَنَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ. Et donc, il est venu voir le prophète Ibn Mas'ud et il l'a informé. فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّفْرِ. C'est-à-dire que Le visage du prophète, quand il a entendu ça, il s'est changé. Il est devenu kassir, c'est-à-dire ahmar, c'est-à-dire qu'il est devenu rouge son visage, de colère, parce qu'il a entendu cette parole-là. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ يَعْبِدْ إِذَا لَمْ يَعْبِدْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. C'est-à-dire, qui c'est qui va être juste dans ce traitement si le prophète, si Allah et son prophète ne sont pas justes à propos donc de ce partage. Et qu'est-ce qu'il a dit, وَهَذَا وَشَاهِدْ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde à Moïse. قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. C'est-à-dire qu'on lui a fait plus d'injustice et que le résultat, ça a été de sa part, Moussa, la patience. On sait que Bani Israël, ils ont beaucoup fait de préjudice à Moussa. Durant tout son parcours à Moïse, si on regarde tous les préjudices que Bani Israël a fait à Moussa, c'est quelque chose d'incroyable. Et malgré ça, ça Sabara. Donc regardez, le prophète Sallam, il s'est rappelé Moïse. Et à ce moment-là, Sabara, il n'a rien fait. Il a patienté. Il n'a rien dit. Adam il a dit là, il court. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Celui qui fait la ta'awu ilallah azzawajal, il est obligé qu'il faut qu'il patiente. Car il sait qu'il va se faire insulter. Car il sait qu'il va se faire traiter par tous les noms. Peut-être même, jusqu'à qu'on le fasse sortir d'islam, qu'on lui dise que c'est un kafir, ou alors qu'on lui dise que c'est un hypocrite, etc. Ou alors qu'on insulte, c'est-à-dire même jusque dans son honneur, etc., dans toutes les choses. Il faut qu'il s'attende à cela. Celui qui va bien y prêcher dans l'islam. Et que cela, ça fait partie donc de ce qui est arrivé au prophète. Et que celui qui va suivre une haine, un biais, il s'attend à cela. Et on sait que as-sabr dans l'islam, au shukr, c'est-à-dire la patience, et également shukr, qui est donc la reconnaissance, ça fait partie donc des points fondamentaux de la foi. Ça fait partie même des piliers de la foi, c'est-à-dire de ce qui est fondamental dans la foi. As-sabr ou shukr. Ça donc, c'est pour ce qui est de as-sabr. Et également, parmi les points qui rentrent dans cette da'wa ou dans cette méthode, c'est l'amal bima yad'u ilayhi. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait la da'wa, et ça a été donc le ménage des prophètes, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont appliqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été faire la da'wa à des gens, et ensuite ils ont fait le contraire. Et c'est pour ça que Shu'aïf, le prophète Shu'aïf, il dit dans un verset du Coran, d'après ce que nous rapporte Allah Azza wa Jal, ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلام استطاع. C'est-à-dire que je ne veux pas faire le contraire de ce à quoi je vous appelle. Je veux uniquement donc l'islam suivant donc ma possibilité. Donc ça c'est la parole de Shu'aïb, un des prophètes. Et tous les prophètes donc, tout ce qu'ils ont appelé, ils l'ont pratiqué. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont pratiqué. De même, donc, pour ce qui est du da'i, c'est le sujet du minhaj al-anbiya, il est obligé de passer par là. Sinon, automatiquement, sa da'wa, elle n'aura pas de valeur. Et les gens ne donneront aucune valeur à cette da'wa. Ça, donc, c'est pour al-amal bima yad'u ilayhi. Et également, donc, un autre verset qu'on va citer. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Donc, ici, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Yani, da'a عباد الله إليه. C'est-à-dire qu'il va appeler donc les gens à Allah Azza wa Jal. وعمل الصالحا. C'est-à-dire هو في نفسه مهتدي. C'est-à-dire qu'en lui-même il est bien guidé. Il est sur une guidance qui est propre, qui est nette. Donc également ce verset prouve que la personne qui fait la da'wa et que c'était ménage l'anbiya, c'était donc d'appliquer ce à quoi ils sont appelés. Ensuite, le dernier point qu'on va traiter, Inch'Allah, c'est Al-Khulq Al-Hassan. Al-Khulq Al-Hassan, c'est-à-dire que la personne, également, ça a été mis à l'Anbiya, c'est qu'ils ont un bon comportement. Lorsqu'on voit leur comportement aux envoyés, quelque chose d'incroyable. Ce qui nous est conté dans le Coran, ce qu'on voit à travers la sunna du prophète, il y aurait donc des centaines de hadiths à citer pour ce qui est de Hussein Al-Khulq. Il suffisait de savoir que Aïcha, ce qu'on avait demandé à propos du Khulq du prophète, elle avait dit c'est comme un Coran qui marche sur la terre. Comme un Coran qui marche sur la terre. Donc un Coran qui marche sur la terre, c'est un qui applique ce qu'il fait. Et donc, tout, Al-Khisal, tout, c'est-à-dire les bonnes caractéristiques que l'on trouve dans le Coran, elles étaient donc en application auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que le plus grand des ennemis d'Allah Azza wa Jal, qui est Fir'aoun, celui qui est Al-Ali Da'ar Rububiya, celui qui a même dit qu'il était le Seigneur. Ayyadun Billah. Ce qui peut avoir une personne qui est plus kafir que cela, Pharaon. Et pourtant, lorsque Allah Azzawajal, il a demandé à Moussa, il a demandé à Haroun d'aller voir Pharaon, qu'est-ce qu'il leur a dit ? وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى. C'est-à-dire, dites-lui une parole layyin, une parole donc qui va être douce. Peut-être qu'il va se rappeler, peut-être qu'il va craindre. Une parole qui va être douce à une personne que si on voit, on voit le plus grand mutakabbir fil ard, c'est-à-dire le plus grand prétentieux sur la terre. Ayyadan bilahi. Malgré cela, Allah Azzawajal commande à ses prophètes, à ses envoyés, de dire cette parole. Qawlan layyinan. Et également, Allah Azzawajal nous dit pour cette communauté, Udru ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati ahsan. C'est-à-dire donc, invoque ou leur rappelle sur le chemin de ton Seigneur avec sagesse. Et al maw'ida al hasana, c'est une exhortation qui est bonne, qui est belle, qui est douce. Wa jadilhum billati ahsan. Et donc, débat avec eux de la meilleure des façons. Ça, regarde, c'est ce qui est dit d'Allah à son prophète. Udru ila sabili rabbika. Et ensuite, également, Allah Azzawajal nous cite pour ce qui est du prophète. Il dit, « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » Et tu es donc sur un, où tu possèdes un caractère éminent. Donc, tout ce que l'on peut trouver chez l'homme, de bon et les meilleures caractéristiques. Également, Allah Azzawajal, il rappelle le bienfait d'Allah Azzawajal sur son prophète pour ce qui est de toujours, ce qui concerne le خُلُق الْحَسَنِ, le bon comportement. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ يعني بمعنى فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ C'est-à-dire, c'est de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal que tu as été envers eux لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Et donc, si tu as été غَلِيظ, si tu as été dur, tu as fait preuve de dureté envers les gens seraient écartés de toi. Et donc, c'est de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il t'a donné, c'est par cette science, de par cette sagesse, etc., que tu étais bon envers les gens. Donc comment un da'i, s'il est dur avec les gens, ils vont accepter de lui. On voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était doux avec les gens, quand il les a appelés à Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il a fait dans sa vie, pour donc concrétiser cette douceur et pour finalement que les gens rentrent dans l'islam, parce qu'ils s'aperçoivent de ce niveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans la douceur, et qu'il avait donc en ce qui concerne al-khuluq al-hasan. Ça donc c'est pour ce qui est, et on va dire en résumé, parce que c'est tellement un sujet qui est large, « Minna jambiya fi da'wati ila Allah »« Fa nastafi bi adhabi bismillahi ta'ala »« Wa nasallallahu azza wa jal »« An yarzuqna al-ikhlas fi al-qawli wal-amal »« Inna huwa al-marju wal-amal »« Wallahu ta'ala a'ala »« Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in »« Subhanaka Allahumma bihamdika »« Ashhadu an la ilaha illa anta »« Astaghfiruka wa atubu ilayk »